à voix nue. Ce soir encore, Jérôme Sandelaar rencontre Manu Dibango. Tout de suite, Afrique, je t'aime moi non plus.
Manu Dibango, bonsoir.
Bonsoir.
Hier, on évoquait ensemble le tube Soul Makossa, la consécration américaine sur la scène de l'Apollo Theater à Harlem, vos démêlés avec Michael Jackson, auquel vous avez finalement trouvé une issue favorable, votre tournée avec l'orchestre des Fania All Stars, la rencontre avec Wayne Beckford, ce jeune artiste anglais avec qui vous avez co-signé une version 2.0 de Soul Makossa en 2011. J'aimerais qu'on aborde ensemble finalement ces rapports toujours ambivalents que vous avez pu avoir avec le continent africain.
Oui.
Vous vous définissez comme un négropolitain. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Je suis un homme des villes, de la cité. Voilà, je ne vis pas au village, j'ai jamais vécu au village. C'est pas péjoratif les gens qui vivent au village, mais disons que je suis pas né dans un village. J'ai jamais vécu au village, j'ai été dans quelques villages comme tout un chacun, mais je suis pas un homme de village, je suis un homme des villes.
Donc ça veut dire quoi, afro-européen, africain de Paris?
Non, mais si tu parles des afro-américains, tu peux parler des afro-européens. Voilà, c'est l'Europe, évidemment, il y a Paris dedans puisque je suis francophone en plus. J'aurais pu être anglophone puisque le Cameroun, il est bilingue. Mais il se trouve que je suis francophone. Voilà, donc ça c'est les réalités, je veux dire, j'achète mon pain là, je paye mes impôts là, voilà, c'est tout. Surtout que je suis noir, mais bon, c'est un détail.
Mais c'est-à-dire que ça vous gêne finalement qu'on vous colle l'étiquette d'Africain?
Non, rien de me gêne, rien de me gêne, en fait, tout sauf les différences, hein. Les gens ils vous voient d'une façon, vous voyez pas à travers les gens qui vous voient. Vous êtes vous, et puis c'est les gens qui vous voient, chacun à sa manière. Mais c'est une série de cercles concentrés, hein. D'abord, tu es Camerounais, né de, comme on en a parlé. Et puis ensuite, tu es de la région de Douala. Et ensuite, tu es Africain. Et ensuite, tu es Afro-Européen. Tout ça, ça va ensemble, quoi. Mais ça dépend à quel moment, de quoi on parle. Mais tu as tout ça en même temps, ce sont des cercles, quoi.
À différents moments de votre carrière, et d'ailleurs aussi bien du côté africain qu'européen, on a pu vous reprocher votre versatilité musicale.
Oui, avant c'était un petit V, puis maintenant c'est un grand V.
Vous avez senti que ça vous apporte...
Moi je le prends dans le bon sens, parce que ça peut aussi vouloir dire éclectique. Tu sais, tu manges pas que du manioc tous les jours, hein. Tu manges aussi autre chose, de l'igname, des patates et tout. Voilà, donc versatile, parce que la musique elle-même, elle est versatile, de par sa définition. Ça dépend dans quel environnement tu fais la musique, avec qui tu joues la musique. Alors, la pensée unique en musique, c'est pas mon genre, quoi. C'est ça, là. Si je dois définir, il y a tout mon vécu. Il y a une culture qui est minimum double, hein. Il y a l'Afrique, il y a la France, et puis ensuite, bon, il y a le monde après. Et que si tu aimes Rachmaninov, t'as quand même droit d'aimer Rachmaninov, quoi. C'est pas encore interdit, quoi. Voilà. Il est pas africain, hein. Voilà.
J'évoquais vos relations avec l'Afrique, donc.
Oui.
Ambivalente. On peut, je pense que
ambigu,
le mot.
Tu veux dire.
Ambigu, ambivalente, ouais. Oui. Et vous dites d'ailleurs à ce propos dans votre autobiographie intitulée 3 kilos de café qui est sortie en 1989, chacun de mes séjours en Afrique s'est soldé par son lot de désillusions et de blessures. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples?
Ben, on voit beaucoup d'exemples, hein. Je veux dire, la guerre du Congo n'est jamais finie. Hein, on parle de la guerre du Congo maintenant, en Goma et tout ça, le nombre des gens qui sont morts, ça fait mal. J'ai vécu la guerre au Congo, moi, en 61. Et le fait que ça continue, là, c'est ce que je suis en train de vouloir dire, que ça s'est jamais arrêté depuis que ce pays est indépendant. Bon, c'est pas toujours en focus parce qu'on parle d'autres pays, des choses comme ça, mais il y a plusieurs guerres en Afrique. Bon, ça te fait mal. Moi j'ai vu des têtes coupées, hein, sur des perches et tout ça. Et moi, j'y allais avec ma femme, je traversais des forêts où il y avait du terrorisme. Et j'ai vu beaucoup de choses. Bon, j'ai eu la chance que je suis sorti de là. Donc, c'est des choses quand même. Et puis, tu vois que c'est des guerres civiles. Mais au bout du mot civil, est-ce que c'est eux-mêmes qui fomentent les guerres ou bien c'est l'extérieur qui fomente les guerres? Hein? Donc tu peux être lucide tout de même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre, mais tu es lucide. Voilà. Parce que qui c'est qui fabrique? C'est nous qui fabriquons les armes? Non. Bon, on y en a plein. Au lieu que les gars ils aient à manger, tu vois des mômes qui ont des chapelets de balles. Combien coûte une balle? Alors le gars, il a le ventre plein de rien du tout, parce que finalement, il mange pas, mais il a des balles. Bon, ça te rend pas tellement joyeux. Hein.
Vous aviez d'ailleurs dédié un morceau aux enfants soldats.
Oui, j'avais fait un morceau déjà à Angola aussi, j'avais à l'époque où la guerre d'Angola a commencé.
Alors, vous avez connu des déboires quand même lors de vos différents déplacements,
séjours. Un déboire dans mon pays d'origine. Ouais. Donc, que ce soit bien clair.
Qu'est-ce qui s'est passé, Madou Dibango?
Ben, tu sais, souvent, hein, quand tu arrives dans un pays qui a tout à construire d'abord, parce que l'indépendance est sur le papier, faut faire une nation au départ, hein, c'est une mosaïque. Les gens n'ont pas toujours la culture en première nécessité. Il faut déjà rassembler toutes ces ethnies, en faire un pays, en faire un peuple, ça prend du temps, L'Occident a mis 3000 ans pour se construire, et là tu demandes aux gens de faire ça en 50 ans, c'est impossible. Bon, donc, mais par contre, je suis musicien, je me dis, je rentre chez moi, faire ce que je sais faire, eh ben, je rentre trop tôt parce que c'était pas une nécessité. Tout simplement, tout ça, ça s'explique avec les malentendus que tout ça, ça peut comporter. Il y a que ça que je sais faire. J'aurais fait ingénieur, est-ce que j'aurais eu les mêmes problèmes? D'ailleurs, je m'excuse de prolonger là-dessus. J'ai un cousin, par exemple, qui est sorti major de l'école de médecine de Rennes. Bon, il est rentré en 60. Quand il rentre pour s'occuper du CHU, son chef, c'était un Français qui était dernier de la classe, de la même classe que lui. Est-ce qu'il peut accepter ça, le gars? Et qui est 10 fois plus payé que lui. Voilà un exemple concret. Voilà.
Alors, à un moment donné, vous parlez des ennemis qui vous jettent des mauvais sorts.
Ça, c'est le Cameroun. Ça.
Le Cameroun. Oui. Et donc là, vous retrouvez... Pardon, mais avec un serpent mortel qui glissait dans vos toilettes.
Il y a des choses quand même ici, comme ça, vous avez... vu de l'Occident, on peut pas se rendre compte. Il faut vivre certains événements sur place. C'est un peu la banane de Sartre, quoi. Il faut la consommer sur place. Hein? Voilà. Donc, si tu n'as pas vécu certaines choses, il y a des choses qui existent forcément. Parce qu'avant que le blanc arrive, il n'a pas trouvé des cadavres en Afrique. Hein? Donc, les gens, il a trouvé des gens, quoi. Je veux dire que les gens vivaient là. Avec leurs coutumes, avec leurs traditions et tout ça. Hein, et dans ces traditions-là, il y a des mauvais sorts, il y a des sorciers, il y a tout ce que tu veux. Et puis ça peut t'arriver, oui, mais il faut être dans le contexte. Mais j'ai survécu, ouais. Hein, puisqu'on parle ensemble.
Mais parce que vous êtes l'enfant qui a la chance avec vous.
Entre autres, oui. Voilà.
Et alors, vous avez eu maille à partir aussi avec le président de l'époque, c'était Aïdjo, c'est ça, au Cameroun, qui vous reprochait finalement de vous présenter plus comme africain que camerounais.
Oui, je peux pas dire maille à partir. Il était fier quand même que j'avais amené le disque d'or. Mais en même temps, il me dit, non, les gens, ils grossissent les problèmes. Il dit, Manu, quand même, présente-toi plus comme camerounais. Et moi, je suis déjà, de par ma génération... Je suis panafricaniste de par ma génération. Je suis la génération de Kwame Nkrumah et tout ça qui rêvait d'une Afrique.
De Fela aussi.
Fela, c'était mon petit frère quand même, hein, quelque part. Mais moi, avant ça, je suis arrivé ici sous la colonisation. Donc, on a commencé à rêver des indépendances ici. Donc, on a rêvé d'un continent où on pouvait circuler de Dakar jusqu'à Cape Town. C'était un rêve. Et eux, ils sont présidents d'un pays. Donc, lui, il s'occupe, ça, c'est un malentendu. Ça veut pas dire que je suis pas camerounais. Je vous ai parlé hier des cercles. Il y a un moment où je suis camerounais, mais quand je vais jouer à New York, bien, forcément, je suis camerounais, mais les Américains disent le Cameroun, c'est où? Alors, t'es obligé de dire ça à côté du Nigeria. Ah, Lagos!
Alors, il y a aussi des expériences plus heureuses. À la fin des années 70, vous partez en Côte d'Ivoire. Donc, je crois à l'initiative de Ben Soumaoro, qui était le directeur de la télévision ivoirienne.
Qui était patron de la télévision.
Voilà. Ouais. Et qui vous propose de prendre la direction de l'orchestre national de la radio-télévision ivoirienne. Comment ça se passe à l'époque?
Alors, d'abord, Ben, il aimait la musique. Mais au-delà, au-dessus de Ben, il y avait Oufouet Boigny, le premier président.
Le père de la nation.
Le père de la nation, qui, lui, avait une philosophie un tout petit peu différente. Il aimait les Africains qui gagnaient. Bon. Et chez lui, il y avait énormément d'Africains venant d'autres pays. Il y a eu malentendu après. Tu veux, on parle de racisme, des machins comme ça, entre les Africains et tout. Lui, il voulait ceux qui ont fait quelque chose dans leur domaine chez lui. Alors, donc je viens et puis on me propose, en fait, il me fait venir. Je fais des concerts et tout ça. De fil en aiguille, on me propose d'être non pas l'orchestre national, mais l'orchestre de la télévision. Que je dirige l'orchestre de la télévision parce que j'avais gagné des galons internationaux et tout ça. Il aimait ça. Mais à côté de moi, il y avait un autre monsieur, Maïga Bonkana, qui est du Mali, qui lui aussi a été faire des études de musique à Cuba, et à qui on a confié la direction de l'Institut des Arts, malien, moi, camerounais. Ça n'empêchait pas qu'ils avaient, eux, leur orchestre national, l'orchestre de la police et tout ça. Donc, voilà le rêve de ce bonhomme à cette époque-là. C'est pour dire que dans sa tête, peu importe d'où tu venais en Afrique, si tu avais fait quelque chose dont les gens parlaient, il voulait que tu sois chez lui. Mais l'Ivoirien, lui, il se dit, alors il vient manger la tchéké des Ivoiriens, enfin, comme on dit ici, il vient manger le pain des Français. C'est un peu ça, quoi, tu vois. Donc, il y a un malentendu, mais toujours est-il que je suis resté 4 ans là. Et quand je suis parti de là, les Alpha Blondy sont arrivés parce qu'ils n'avaient pas de musique populaire. C'est ça aussi. Donc lui, c'est un visionnaire, ce qu'on appelle visionnaire.
Il y a une chose qui est importante pour vous, Manu Dibango, c'est la transmission.
Oui.
Vous aviez nourri le rêve de créer un conservatoire, je crois, en Afrique. Alors je ne sais pas si finalement il a vu le jour.
Au Cameroun.
Au Cameroun. Est-ce que...
C'est pas encore fait, mais il y a des bons musiciens, il y a des individualités très fortes. Les Richard Bonnat, les Étienne Mbappé, il y a... Beaucoup de bons musiciens chez nous. L'histoire, c'était quand même de pérenniser ça, de faire une institution de ça. Je pense qu'on avait les moyens, on pouvait le faire. Bon, ça s'est pas fait encore, mais peut-être que ça... C'est, il faut toujours penser à demain. Hein. C'est toujours un rêve qui est toujours en l'air.
Néanmoins, à plusieurs reprises, vous avez créé ce qu'on pourrait appeler des workshops, des ateliers musicaux lors de vos différents déplacements en terre africaine, et notamment parce que vous surfiez un petit peu sur le succès de certains titres pour une poignée de CFA, donc, qui dénonçait la corruption, ou encore Afrique sans fric, des morceaux que vous avez joués dans toute l'Afrique
tout
francophone.
Tout est dans le titre, hein, parce que ouais. Je suis pas parolier. Il y a l'Afrique Afrique et l'Afrique sans fric.
Voilà. Le goût des jeux de mots, comme ça, dire des choses, mais de manière humoristique.
C'est ce qui me reste de ce pays ici, l'humour.
Ça vous vient d'où, ça?
D'ici, des frères Jacques, des chansonniers. C'est le côté, justement, occidental de Manu.
Et c'est important, ça, de transmettre, Manu Dibango?
Je pense que oui. Hein. faut bien justifier votre passage sur cette terre. Hein. Qu'est-ce que vous êtes venu faire quoi, là?
Parmi les gens qui ont compté pour vous, Manu Dibango, il y a Hervé Bourges.
Il compte toujours.
Voilà. Ex-patron de TF1, oui, de Radio Monte Carlo, une longue amitié donc qui dure jusqu'à aujourd'hui, oui. Et qui va vous ouvrir votre conscience à la politique et aux grandes causes. De quelle manière et comment vous l'avez rencontré, Hervé Bourges?
Bourges, je l'ai rencontré dans les années 70 au Cameroun et en fait, on ne s'est plus jamais spécialement quitté. Sinon, de temps en temps physiquement, mais spirituellement, on est toujours ensemble, quoi. Donc, il était patron de l'école de journalisme. C'est lui qui a ouvert l'école du journalisme, la première au Cameroun. Ensuite, il est parti à Lille. Ensuite, il était dans plusieurs structures, jusqu'à RFI, patron. Il est passé par l'UNESCO. Jusqu'au moment où il a été patron de TF1 et enfin il est devenu patron du CSA. Mais tout ce parcours-là, j'étais toujours derrière lui. En fait, j'étais un peu à l'ombre, comme on dit ici l'ombre. C'était moi.
Est-ce que c'est
donc
lui...
c'est toujours moi.
Est-ce que c'est lui qui, en 85, finalement vous parle de ce projet Tam Tam pour l'Éthiopie?
Est-ce que non, c'est moi qui lui parle de ça, mais il se trouve qu'il est déjà patron de la télévision. Et c'est lui, par contre, qui m'a fait faire des émissions. J'ai été le premier, sinon le seul, à avoir une émission de télévision pendant 2 ans. Et c'est... Sydney avait une émission...
1984 à Chipé, à Chopé.
Voilà, après ça, moi j'ai eu Salut Manu pendant 2 saisons, mais c'est grâce à Hervé que j'ai pu avoir ces émissions. Et bon, ça s'est terminé pas taratata maintenant, mais disons, ce n'est plus moi. Mais ça a commencé comme ça. Je faisais venir beaucoup, beaucoup. Tous les artistes sont passés là-dedans, hein, les Aziz, les Obispo, tout ce qui commençait, les chefs Khalem. Il y a qu'à regarder à Lina, il doit avoir toutes ces bandes-là. Donc on a fait quand même du chemin. Beaucoup de cette génération-là regardaient cette émission.
Ce que vous voulez dire, c'est que d'une certaine manière, vous avez préfiguré ce qu'a fait par la suite Nagui avec Taratata, que déjà,
oui,
à votre
sûr.
Époque, il y avait une émission de live.
Bien sûr, j'ai été le premier quand même. Encore qu'en 67, 68, j'avais déjà une émission en noir et blanc.
Pulsation.
Pulsation avec Légitimus, l'oncle de Pascal.
Dont vous dirigez l'orchestre.
C'est ça.
Et puis vous avez essayé de monter aussi, enfin vous avez monté un journal musical, Afromusique, entre 76 et 78,
oui,
à peu près,
oui, oui.
Je crois. Ça a été un échec commercial, non? Ou qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, je m'en suis... Ouais, en fait, ça n'a pas été... disons que ça n'a pas été un succès, quoi. Mais bon, ça avait sa place parce qu'il manquait ce genre de presse à cette époque-là, quoi. J'ai été pionnier, mais pas heureux en affaires, mais heureux du fait que j'ai été pionnier à le faire.
Avant des magazines comme on voit aujourd'hui, Vibration, Mondo Mix, World, etc.
Je dis que j'ai eu tort d'arriver trop tôt.
D'où elle vous venait, Manu Dibango, cette passion pour les médias?
C'est naturel, ça. Quand tu fais la musique, tu communiques. Déjà, c'est une question de communication. Et puis, quand tu es en mesure, j'ai toujours une émission de radio, d'ailleurs. Ça fait 12 ans que je fais une émission de radio.
Sur Africa numéro 1.
Et voilà, pour un tout peu faire. Parce que beaucoup de gens qui sont nés ici, la musique commence sur Youssoundour. Alors, ils connaissent pas la musique des temps passés, on a les disques qui datent de 1926, comme ça, tu vois. Donc, pour faire voir aux gens qu'il y avait déjà des supports de musique à cette époque-là. Donc, c'est intéressant à faire. Puis, je peux le faire et je peux dire maintenant que je sais le faire. Mais bon, mais il y a quand même des gens qui m'ont fait confiance. Ils ont demandé à d'autres, peut-être que ça n'a pas marché, ils sont venus chez moi. Voilà.
Est-ce que vous trouvez que les choses ont évolué justement au sein des médias? Est-ce qu'on aujourd'hui on fait plus de place aux Afro-Européens? Ou bon, on sait qu'il y a Harry Roselmack qui dirige 7 à 8, Audrey Pulvar, Tania de Montaigne, je pense c'est elle qui était sur France Inter, Elisabeth Chungi qui vient de nous rejoindre sur France Culture. Est-ce que vous trouvez que aujourd'hui le monde des médias s'est davantage ouvert aux...
On vit une époque très frileuse, hein, dans le monde entier. Alors tu sais, c'est un peu compliqué. Ça devrait être beaucoup plus naturel. Quand on force, c'est que c'est pas naturel, c'est qu'il y a un loup quelque part, comme dirait l'autre. Mais bon, bref, peut mieux faire. Voilà.
Le cinéma, Manu Dibango, c'est une de vos autres passion. Vous avez composé des musiques de films, notamment pour le cinéma africain, en 77, L'Herbe Sauvage, film ivoirien, réalisé par Henri Dupart, qui a eu également Cédo, un film sénégalais.
Saint-Ben.
Voilà, Le Prix de la Liberté aussi, film camerounais. Parlez-nous un petit peu de votre amour du cinéma.
Mais l'amour, il est naturel que nous, on a connu l'époque des Clark Gable, des grandes musiques de films. Quand on aime les films comme on a aimé, comme on a aimé Hollywood, qu'on a aimé les Gene Kelly, les comédies musicales et tout ça. Quand tu es un homme du musical, forcément, l'image, elle est vue de par, l'image, mais de par le son, les dialogues, et puis ensuite la musique. Il y a des musiques qui ont porté un film. Je dis que Shaft, quand tu écoutes Shaft, immédiatement tu vois le film. Il y a des musiques comme ça. Je veux dire, le train sifflera 3 fois, tu vois la musique. un jour, Lara viendra. En fait, toutes les grandes fresques sont portées par des musiciens. Quand tu es musicien, tu dis, tiens, moi aussi, j'aimerais. Il y a la curiosité naturelle d'un musicien de toucher en tout, à plusieurs... La musique, c'est un diamant avec plusieurs facettes. Voilà, donc il faut, c'est une facette.
Surtout ne pas être enfermé dans un...
Voilà, donc est-ce que je peux, j'aimerais bien, j'aime bien l'image, est-ce que, puis finalement, ça arrive, ça peut arriver, ça m'est arrivé plusieurs fois.
Jusqu'au film d'animation, d'ailleurs, puisque vous avez composé la BO de Kirikou et les Bêtes Sauvages, de Michel Oslo.
Grand succès.
Comment vous avez travaillé avec Michel Oslo sur ce
Pas facile, non, assez difficile, mais il a raison, parce que ses images sont parfaites, ses idées sont... Bon, lui, il n'est pas musicien, alors c'est là où il y a le... Quand tu tombes sur un metteur en scène qui est musicien, tu accroches bien, mais quand tu... Ça a été difficile, mais au bout, on a fait quand même quelque chose de bien. Je crois qu'on a travaillé 6-7 mois là, à l'image, mais tu prépares des scènes par rapport au scénario, puis tu les proposes et on travaille à l'image. C'est très intéressant.
Est-ce qu'il est vrai qu'il vous avait imposé d'utiliser des instruments d'Afrique de l'Ouest ? La kora, le balafon, le djembé, la guitare ?
Imposé, non, mais comme l'action se passait, parce que lui, il a vécu son enfance en Afrique de l'Ouest. Il ne connaît pas l'Afrique centrale. Mais comme j'avais déjà travaillé avec Saint-Ben et que j'avais vécu en Afrique de l'Ouest, j'avais une idée de l'instrumentation, mais il ne voulait pas, finalement, très peu d'instruments occidentaux dans son film, hein, parce que ça, c'est une histoire africaine. Il a d'ailleurs eu beaucoup d'histoires. Le film n'est pas passé aux États-Unis parce qu'il y a des femmes avec des seins nus et tout ça dans le film. Donc les Américains, ça passe pas chez eux. Ouais, mais c'est naturel, les mamans dans la forêt, ils ont pas de soutien-gorge, je veux dire. Bon, ça se passe pas à ce niveau-là, quoi. Sauf pour les Américains.
Parallèlement, vous avez aussi composé de la musique pour des spots publicitaires à destination de l'Afrique.
Oh oui, oh oui.
Vous êtes ce qu'on pourrait dire, on pourrait dire que vous êtes un créateur bardé de récompenses, puisque tout au long de votre carrière, vous avez été nominé à Hollywood, on le disait précédemment, en 74, comme pour le meilleur album et comme meilleur instrumentiste pour Sol Macossa. Consécration en Italie, qui vous a fait citoyen d'honneur de Cortina d'Ampezzo en 85, puis de Turin en 86. Consécration en France aussi, vous avez été fait chevalier en 86, officier en 89, commandeur des arts et lettres en 99. Bon, il y a comme ça pléthore. Sans oublier une victoire de la musique,
beaucoup,
je continue.
Encore. J'aurai une épaule à la Bocassa bientôt, tu vois, je pourrais plus marcher. Tu vois.
Jusqu'en 92, une victoire de la musique pour votre album Négropolitaine.
Oui.
Est-ce que vous êtes sensible à toutes ces récompenses, Manu Dibango ?
En tant qu'être humain, oui, mais en fait, tu fais pas ce métier pour. Hein, c'est pas un plan de carrière, quand même. Ce sont les gens qui vous voient encore une fois et qui disent, tiens, mais au départ, vous faites la musique par amour et par passion. Voilà, il se trouve que en route, il y a quand même des gens qui vous écoutent et dans ces gens-là, il y a des décideurs. Tiens, ça commence par chevalier des arts et lettres et puis officier, et puis ça finit par commandeur et puis après il y a la Légion. Mais vraiment, sincèrement, peut-être qu'il y a des gens qui demandent. Mais tout ça, c'est arrivé du fait de l'être humain, quoi. Je veux dire. Voilà, c'est juste bêtement un problème d'être humain.
Je me souviens d'une fois, et on va clore là-dessus, Manu Dibango, j'étais venu vous interviewer, vous rencontrer ici même chez vous à Champigny-sur-Marne, il y a quelques années, et c'était un ballet permanent. Il y avait tout le temps des jeunes qui passaient, jeunes générations. Tout à l'heure, on a aperçu l'une de vos filles, votre nièce, je crois, Claire Diboa, qui s'occupe de vos affaires.
Mon fils aussi qui est passé.
Voilà, on a aperçu Marva, donc... une de vos filles qui attend un bébé. Mmh. Et j'ai eu le sentiment que c'était vraiment un clan. Derrière Manu Dibango, il y a un clan, il y a une famille qui habite ici. C'est toujours extrêmement vivant. C'est comment ça fonctionne ? C'est le clan à l'africaine, vous êtes le chef de clan, c'est dur à porter.
Je suis bêtement naturel, quoi. C'est normal qu'il y ait du monde autour de toi. Je veux dire que c'est triste de vivre tout seul. Il y a la famille, j'ai la chance que mon fils il vit avec sa femme et ses enfants d'ailleurs à 10 minutes d'ici, c'est une chance. Il aurait pu vivre en Australie ou des trucs comme ça. Hein. J'ai un autre fils qui est musicien, qu'on voit de temps en temps. J'ai une autre fille qui vit dans le 13e. Mais on a, comme tout le monde, on aime bien se retrouver. Voilà, c'est chaud. Et moi, j'ai été élevé dans ce sens-là, même si j'ai eu un moment de solitude quand je suis arrivé à Saint-Calais et tout ça. Mais après, ça se reconstitue à partir du moment où tu as des enfants. C'est naturel, hein?
Merci Manu Dibango pour tous ces bons moments passés avec vous cette semaine. Et puis longue vie à vous encore. Je crois qu'il y a encore des projets, un album à venir, une autobiographie que vous allez sortir avec Gaston Quellement. Enfin, encore plein de belles choses en perspective.
La vie continue, ainsi va la vie, comme dirait l'autre. Ben, j'ai été ravi de passer un moment avec vous, avec toute l'équipe d'ailleurs, hein. Et puis, on sait jamais, pour une autre occasion, au revoir avec plaisir.
Merci.
Fin de cette rencontre de Jérôme Sandelard avec Manu Dibango. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Julien Bourdet, réalisation Anne-Pascal Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Dès lundi, une nouvelle rencontre.